Chapitre 13. Pour répondre à votre dernière question, dit l'intégrateur Prime Astigche, nous devons nous rendre sur Terre parce que c'est sur cette planète ou dans son voisinage que se trouve la source de toute cette activité quantique.
Peu de temps après notre rencontre, répliqua Oakenberry, Manmuth m'a dit que si vous les aviez envoyés sur Mars, Orphu et lui, c'était précisément parce que cette activité trouvait apparemment son origine sur Mars, et plus précisément sur Olympus Mons.
C'est ce que nous pensions lorsque nous avons tiré profit de la capacité TQ des Olympiens pour ouvrir ces trous afin de relier la ceinture et l'espace jovien, d'une part à Mars, et à la Terre de l'époque d'Ilium, d'autre part. Mais nous pouvons désormais déduire de nos connaissances technologiques que le centre et la source de cette activité se trouvent sur Terre, Mars n'en étant que le réceptacle. À moins que le terme de cible ne soit plus approprié.
Vos connaissances ont évolué à ce point en l'espace de 8 mois?
Depuis que nous avons emprunté les tunnels quantiques olympiens, nos connaissances en la matière ont au moins triplé, répondit Choli, qui semblait le plus expert du lot. C'est au cours des 8 derniers mois que nous avons effectué la majorité de nos découvertes en matière de gravité quantique, par exemple.
Et qu'avez-vous donc découvert?
Oakenberry ne s'attendait guère à comprendre une explication scientifique. Mais les Moravec commençaient à éveiller ses soupçons. Ce fut Rétrograde Sinopessen, le transformateur à pattes d'araignée, qui lui répondit dans un grondement incongru.
« Tout ce que nous avons pu apprendre est terrifiant. Absolument. » Terrifiant.
Voilà un mot que Oakenberry comprenait sans peine.
Parce que ce machin quantique est instable? D'après Manmuth et Orphu, vous le saviez déjà avant de les envoyer sur Mars. C'est donc pire que vous ne le pensiez?
Non seulement il faut prendre ce facteur en considération, dit Astigche, mais en outre, nous comprenons mieux la façon dont la ou les forces derrière ces prétendus dieux utilisent ce champ d'énergie quantique.
Là où les forces derrière ces prétendus dieux.
Oakenberry releva cette formulation sans la commenter pour le moment.
À savoir, demanda-t-il,
les Olympiens font voler leurs chars en exploitant les distorsions, les replis du champ quantique,
répondit Summa 4, le Ganymédéen. La lumière se reflétait sur ses yeux à facettes en vagues irisées.
Et c'est grave?
Autant que si vous utilisiez une arme thermonucléaire pour alimenter un éclairage domestique,
répliqua Choli d'une voix douce.
Les énergies mises en œuvre sont presque incommensurables.
Dans ce cas, pourquoi les dieux n'ont-ils pas gagné cette guerre? Il me semble que vos ressources technologiques sont à la hauteur des leurs, y compris l'égide de Zeus.
Ce fut Baby Nadi, le général Rockvec, qui lui répondit.
Les dieux n'utilisent qu'une infime fraction de l'énergie quantique déployée à proximité de Mars et d'Ilium. Nous ne pensons pas qu'ils comprennent la technologie dont ils tirent leur puissance. On la leur a prêtée.
Et qui?
Oakenberry fut pris d'une soudaine soif. Il se demanda si les Moravec avaient pensé à équiper leur bulle pressurisée d'un distributeur de nourriture et de boissons pour humains. C'est pour le découvrir que nous partons pour la Terre, dit Astigche.
Pourquoi utilisez-vous un vaisseau spatial?
Je vous demande pardon, fit Choli de sa voix douce.
Comment, sinon, voyager entre les mondes?
Comme vous êtes venu sur Mars, en passant par un trou.
Astigche secoua la tête d'une façon qui n'était pas sans rappeler Manmuth.
Il n'existe aucun tunnel quantique reliant Mars à la Terre.
Mais vous avez ouvert des trous pour venir ici depuis la ceinture et l'espace jovien, n'est-ce pas?
Dit Oakenberry, qui sentait la migraine le gagner.
« Pourquoi ne pas procéder de la même manière ?»
Choli prit la parole.
« Manmuth a réussi à positionner notre transpondeur en quinconce relativement au flux quantique d'Olympos. Nous n'avons aucun agent sur Terre ou dans l'espace terrien qui puisse procéder de même. L'un de nos objectifs est précisément de combler cette lacune. Nous emporterons à bord de notre vaisseau un transpondeur d'un modèle plus récent. »
Oakenberry opina, bien que n'étant pas sûr de comprendre ce qu'on venait de lui dire. Il s'efforça de se rappeler la définition du mot « quinconce ». Ne s'agissait-il pas d'un rectangle avec un point en son centre de symétrie, ou d'un motif caractérisant une feuille ou un pétale de fleur? Tout ce qu'il savait, c'était que ce terme était lié au chiffre 5. Astigche se pencha au-dessus de la table.
« Docteur Oakenberry,
Puis-je vous donner une idée de ce qui nous terrifie dans cette utilisation frivole de l'énergie quantique ?
Je vous en prie.
Quelle politesse, songea Hockenberry qui avait passé bien trop de temps en compagnie des héros troyens et achéens. Durant les 9 années que vous avez passées entre Olympos et Ilium, n'avez-vous rien remarqué d'anormal en ce qui concernait la pesanteur ?
Si, je me suis toujours senti un peu plus léger à Olympos, avant même de savoir que ce lieu se trouvait sur Mars, ce que vous m'avez fait comprendre. Mais cela n'a rien d'anormal, n'est-ce pas ? La gravité martienne est inférieure à la gravité terrienne, c'est ça ?
Très inférieure, dit Cholly d'une voix qu'Hockenberry trouva soudain flûtée. Elle est égale à 3,72 mètres par seconde.
Ce qui signifie
qu'elle équivaut à 38% de la pesanteur terrestre, précisa Rétrograde Sinopessène. Et vous passiez tous les jours par téléportation quantique de la gravité terrestre à celle d'Olympos. Avez-vous remarqué cette variation de 62 points, docteur Hockenberry ?
Appelez-moi Thomas, je vous en prie. 62 points, ça veut dire que sur Mars, j'aurais dû flotter comme un ballon, faire des bonds de 20 ou 30 mètres. Grotesque et ridicule.
Vous n'avez remarqué aucune différence, affirma Astigche.
Pas vraiment, admit Hockenberry.
Il se sentait un peu plus léger en regagnant Olympos après avoir passé la journée à observer la guerre de Troie, non seulement quand il se trouvait dans les hauteurs, mais aussi lorsqu'il regagnait les baraquements des scoliastes situés au pied du volcan. Qu'il marche ou qu'il porte un fardeau, il se sentait bien moins fatigué, mais 62 points? Non, ce n'était pas possible.
Bon, d'accord, je sentais une différence, mais pas tant que ça.
Cela n'a rien d'étonnant, docteur Hockenberry, car la gravité de Mars sur laquelle vous avez passé les 10 dernières années et sur laquelle nous livrons bataille depuis 8 mois équivaut à 93,82% de la pesanteur terrestre.
Hockenberry rumina ce chiffre durant quelques instants.
Bon, et alors ? Fit-il. Les dieux ont tripoté la gravité, de même qu'ils ont pourvu la planète d'une atmosphère et de quelques océans. Ce sont des dieux, après tout.
Ils ont des moyens, mais ne sont pas ce qu'ils semblent, dit Astigche.
C'est vraiment un exploit d'altérer la gravité d'une planète ?
S'enquit Hockenberry.
Suivit un long silence, durant lequel les Moravec n'affichèrent aucune réaction, mais Hockenberry était sûr qu'ils communiquaient entre eux par radio ou par un autre moyen et se disaient quelque chose du genre « Comment expliquer la situation à ce béotien ?» Ce fut Summa 4, le ganymédien, qui s'y colla.
« C'est un exploit hors du commun !»
Encore plus difficile à réaliser que la terraformation de la Mars originelle, en moins d'un siècle et demi,
renchérit Cholly,
laquelle constitue une impossibilité.
« La gravité, c'est la masse. » ajouta Rétrograde Sinopessène.
Ah bon ? Fit Hockenberry qui ne se souciait plus de passer pour un crétin intégral. J'ai toujours cru que c'était ce qui attirait les objets vers le bas.
La gravité est une action de la masse sur l'espace-temps, poursuivit l'araignée argentée. La Mars actuelle a une densité égale à 3,96 fois celle de l'eau. La Mars originelle, la planète telle que nous pouvions encore l'observer il y a un siècle à peine, était d'une densité égale à 3,94 fois celle de l'eau.
Ça ne fait guère de différence, fit remarquer Hockenberry.
En effet, acquiesça Astigche. Et cela n'explique en aucune manière une augmentation de 56% de l'attraction martienne. Car la gravité est aussi une accélération,
ajouta Cholly de sa voix mélodieuse.
Hockenberry était complètement perdu.
Il était venu ici pour s'informer de la prochaine expédition sur Terre et de son éventuelle participation à celle-ci, pas pour suivre une remise à niveau pour lycéens déficients en matière scientifique.
Donc, les dieux, ou ceux qui se cachent derrière eux, ont altéré la gravité martienne. Et vous estimez que c'est grave ?
C'est très grave, docteur Hockenberry, dit Astigche. Là où les entités qui ont ainsi manipulé la gravité martienne jouissent d'une maîtrise totale de la gravité quantique. Les « trous », comme on les appelle à présent, sont des tunnels quantiques qui distordent et manipulent la gravité.
« Des trous de verre », dit Hockenberry. « Je connais. »
Grâce à Star Trek, ce qu'il s'abstint de préciser.
« Des trous noirs et des trous blancs. » Voilà qui épuisait le vocabulaire dont il disposait. À la fin du XXe siècle, même des profanes comme lui savaient que l'univers grouillait de trous de ver susceptibles de connecter divers endroits de la galaxie et que pour voyager dans un trou de ver, on devait entrer dans un trou noir et ressortir par un trou blanc, ou vice-versa. Astig-Che secoua la tête à la manière de Manmut.
« Pas des trous de ver, des trous de bran, de membrane. Apparemment, les post-humains établis en orbite terrestre ont créé des trous de ver temporaires à partir de trous noirs. Mais les trous de bran, et il n'en reste qu'un seul pour relier Mars à Hélium, rappelez-vous, les autres se sont dégradés après être devenus instables, ne sont pas des trous de ver.
Si vous tentiez de passer par un trou de ver ou un trou noir, vous n'y survivriez pas,
ajouta Choli.
Vous seriez spaghettifié,
renchérit le général Baby Nadi. À l'entendre, c'était là une perspective des plus réjouissantes.
Être spaghettifié,
commença rétrograde Sinopessen.
Je crois que j'ai compris, dit Hockenberry. Donc, le fait que l'adversaire utilise comme il le fait la gravité quantique et ses trous de bran quantique le rend encore plus terrifiant à vos yeux.
Oui,
dit Astig-Che. Et vous avez décidé de rallier la Terre à bord d'un vaisseau spatial pour découvrir l'identité de celui qui a ouvert ces trous, terraformé Mars et sans doute créé les dieux.
Oui.
Et vous souhaitez que je vous accompagne?
Oui.
Pourquoi? Quelle contribution pourrais-je donc apporter à... Hockenberry se tut et toucha l'objet glissé sous sa tunique, le disque qui pesait sur son torse.
Le médaillon Técu.
Oui.
Fit Astig-Che. Peu de temps après votre arrivée, je vous ai prêté ce médaillon pendant 6 jours. J'ai cru que vous ne me le rendriez jamais. Et vous m'avez soumis à des tests, analyse sanguine, analyse d'ADN, la totale. Je pensais que vous seriez en mesure de reproduire ce gadget à des milliers d'exemplaires.
Si nous avions pu en reproduire une douzaine, une demi-douzaine, ne serait-ce qu'un seul. La guerre contre les dieux serait finie et Olympos occupé.
Déclara le général Baby Nadi.
Il nous est impossible de dupliquer ce système TQ,
dit Choli.
Pourquoi?
Sans qui Hockenberry, dont la migraine commençait à devenir insoutenable.
Ce médaillon TQ est expressément conçu pour votre corps et votre esprit,
dit Astig-Che de sa voix à la James Mason.
L'un comme l'autre ont été fabriqués sur mesure pour faire fonctionner le médaillon TQ.
Hockenberry rumina cette révélation. Puis il secoua la tête et palpa une nouvelle fois le médaillon sous sa tunique.
Ça n'a aucun sens. Ce gadget n'a rien d'ordinaire, vous savez. Avant d'en hériter, je devais, comme tout bon scoliaste, suivre une procédure bien précise pour regagner Olympos. C'était les dieux qui nous téléportaient là-haut. Une manœuvre du genre « Remonte-nous, Scotty », si vous voyez ce que je veux dire. Mais je présume que cela ne signifie rien pour vous.
« Bien au contraire, »
déclara le transformateur pour train électrique à pattes d'araignée.
« J'adore ce programme. Je possède des enregistrements de tous les épisodes. La première série est de loin la meilleure. Je me suis toujours demandé s'il n'existait pas une relation romantico-charnelle entre le capitaine Kirk et Monsieur Spock. »
Hockenberry ravala la réplique qui lui brûlait les lèvres.
« Écoutez, » dit-il au bout d'un temps. C'est la déesse Aphrodite qui m'a donné ce médaillon Técu afin que je puisse espionner Athénée, qu'elle avait l'intention de tuer. Mais durant les 9 années précédentes, j'avais travaillé comme scoliaste et effectué quantité d'allers-retours entre Ilium et Olympos. Comment a-t-on pu fabriquer mon corps sur mesure en fonction de ce médaillon alors que personne ne pouvait savoir que...
Il laissa sa phrase inachevée. Sa migraine menaçait de tourner à la nausée. Il se demanda si l'air de cette bulle bleue n'était pas un peu vicié.
À l'origine, vous avez été reconstruit pour faire fonctionner ce médaillon,
déclara Astig-Che.
Tout comme les dieux l'ont été pour ce Técu sans accessoires, nous en sommes persuadés. La solution de cette énigme se trouve peut-être sur Terre ou alors en orbite terrestre, dans l'une des centaines de milliers de cités et de stations post-humaines.
Hockenberry s'affala sur sa chaise. Lorsqu'ils avaient pris place autour de la table, il avait remarqué que son siège était le seul à être pourvu d'un dossier. Ses Moravec étaient bien prévenants. Si vous souhaitez que je participe à cette expédition, c'est parce que je pourrais me téléporter ici en cas de pépin. Ma fonction sera similaire à celle d'une balise de sécurité à bord d'un sous-marin nucléaire de mon époque. L'équipage ne lançait ce gadget qu'en dernière extrémité.
Oui, fit Astikche. C'est précisément pour cela que nous souhaitons votre présence.
Hockenberry tika. Au moins êtes-vous franc. Je dois le reconnaître. Quels sont les objectifs de cette expédition?
Premier objectif, localiser la source de cette énergie quantique, dit Choli. Et la désactiver si possible. Elle représente une menace pour l'ensemble du système solaire.
Deuxième objectif, entrer en contact avec d'éventuels survivants, humains ou post-humains, sur la surface ou en orbite. Et les interroger sur les mobiles de cette histoire de Dieu et d'Ilium. Et sur les dangereuses manipulations quantiques concomitantes.
Déclara Summa 4, le ganymédien à l'épiderme liquide.
Troisième objectif, dresser l'inventaire des tunnels quantiques, des trous de Bran, existants, connus ou inconnus, et voir s'ils peuvent être utilisés pour le voyage interplanétaire, voire interstellaire, ajouta Rétrograde Sinopessen.
Quatrième objectif, dénicher les entités extraterrestres qui ont pénétré dans le système solaire il y a 1400 ans. Les véritables déités qui manipulent ces Olympiens infantiles et tenter de raisonner avec elles, dit le général Baby Nadi, et les détruire si le dialogue s'avère impossible.
Astikche conclut de sa voix si polissée.
Cinquième objectif, rapatrier sur Mars notre équipage humain et Moravec, en vie et en bon état.
Voilà au moins un objectif que j'approuve, commenta Hockenberry. Son cœur battait à tout rompre et sa migraine avait viré à la névralgie, ce qui lui rappelait les pires moments de sa carrière d'étudiant. Il se leva. Les cinq Moravec l'imitèrent.
« Quel délai de réflexion m'accordez-vous » demanda-t-il.
« Si vous avez prévu de partir dans moins d'une heure, ce sera sans moi. Je veux réfléchir sérieusement à la question. »
« Le vaisseau ne sera prêt à partir que dans 48 heures, » répondit Astikche. Souhaitez-vous rester ici en attendant de prendre votre décision? Nous vous avons préparé une habitation conforme à vos besoins dans un secteur tranquille de...
Je préfère retourner à Ilium, coupa Hockenberry. Je serai davantage en état de réfléchir une fois là-bas.
Nous allons préparer votre frelon en vue d'un départ immédiat, dit Astikche. Cela dit, il semble que les événements se précipitent, si j'en crois les rapports que me transmettent nos moniteurs sur place.
« C'est toujours pareil, » râla Hockenberry. « Il suffit que je m'absente quelques heures pour qu'il arrive quelque chose d'intéressant. »«
Ce qui se passe à Ilium et à Olympos est si intéressant en fait que vous risquez de ne plus vouloir partir, docteur Hockenberry. »
intervint Rétrograde Sinopessen.
« Ce que je comprendrais parfaitement, étant donné votre intérêt pour l'Iliade. »
Hockenberry soupira et secoua sa pauvre tête.
J'ignore quelle péripétie agite Ilium et Olympos, mais une chose est sûre, elles n'ont plus aucun rapport avec l'Iliade. La plupart du temps, je suis aussi dépassé que peut l'être cette malheureuse Cassandre.
Un frelon traversa la paroi incurvée de la bulle bleue, vint planer au-dessus de la table et se posa non loin de là. Sa rampe d'accès se déroula. Manmut apparut à sa porte. Hockenberry salua la délégation Moravec d'un hochement de tête.
« Je vous ferai connaître ma décision dans les 48 heures, » dit-il, et il se dirigea vers l'appareil.
« Docteur Hockenberry, »
dit la voix de James Mason. Il se retourna.
« Nous souhaitons emmener avec nous un grec ou un troyen, » dit Astikche. « Nous vous serions reconnaissants de nous aider dans notre choix. »«
Et pourquoi ? Pourquoi s'encombrer d'un humain de l'âge du bronze ? D'un individu qui a vécu et qui est mort 7000 ans avant l'époque actuelle de la Terre ?»
« Nous avons nos raisons, » répondit l'intégrateur prime. « Qui nous conseilleriez-vous de choisir au débeauté ?»«
Hélène de Troie, » songea Hockenberry. « Aménagez-nous une suite nuptiale dans votre vaisseau spatial et je vous garantis une expédition des plus mémorables. »
Il se demanda à quoi ressemblerait le sexe en apesanteur. Sa migraine l'empêcha de développer le sujet.
« Est-ce un guerrier qu'il vous faut ? » demanda-t-il. « Un héros ?»
« Pas nécessairement, » répondit le général Baby Nadi. « Nous emmenons une centaine de nos guerriers. Nous avons besoin d'un personnage de la guerre de Troie comme atout supplémentaire. »«
Hélène de Troie ?»
lui souffla une voix intérieure.
Parmi ses nombreux atouts, on compte...
Il secoua la tête. Achille ferait un candidat idéal, dit-il. Il est invulnérable, vous savez.
En effet, dit Choli de sa douce voix, nous l'avons discrètement analysé et nous savons pourquoi il est invulnérable.
C'est parce que sa mère, la déesse Tétis, l'a trempé dans les eaux du... commença Oakenberry.
En fait, coupa rétrograde Sinopessen, c'est parce que quelqu'un ou quelque chose a distordu la matrice de probabilité quantique entourant Monsieur Achille dans des proportions tout à fait improbables.
D'accord, fit Oakenberry qui ne comprenait pas un traître mot de cette explication. Alors, que dites-vous d'Achille?
Je ne pense pas qu'il souhaiterait nous accompagner, n'est-ce pas, docteur Oakenberry?
Dit Astikche. Non. Pourriez-vous l'y contraindre?
À mon avis, cette manœuvre serait plus risquée que toutes celles que nous aurons à effectuer dans le cadre de notre visite à la troisième planète,
gronda le général Bébinadi.
Tiens, un Rogvec doué du sens de l'humour? Qui d'autre ferait l'affaire à part Achille?
Demanda Oakenberry.
Nous attendons vos suggestions. Il nous faut une personne courageuse mais intelligente. Hardie mais sensée. Quelqu'un avec qui nous puissions communiquer. Une personnalité flexible, pour ainsi dire.
Odysseus,
déclara Oakenberry sans hésiter un instant.
C'est Odysseus qu'il vous faut.
Pensez-vous qu'il accepterait de nous accompagner?
Demanda rétrograde Sinopessen. Oakenberry inspira profondément.
Si vous lui dites que Pénélope l'attend au terminus, il est capable de vous suivre en enfer.
Nous ne pouvons pas lui mentir,
dit Astikche.
Moi, si, et j'en serais ravi. Que je vous accompagne ou non, je vous servirai d'intermédiaire pour recruter Odysseus.
Nous vous en serions reconnaissants,
dit Astikche.
Il nous tarde de connaître votre décision, et vous avez 48 heures pour la prendre.
L'Européen tendit le bras, et Oakenberry constata qu'il y avait à son extrémité une main relativement humanoïde. Il la serra et rejoignit Manmut à bord du frelon. La rampe se rétracta, le siège invisible l'agrippa, ils sortirent de la bulle.